Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonjour, bonsoir et plabengut sus la zundos des radios Albitses pour ce comme lundi 19 septembre 2022. Avec moi en studio, c'est Arnaud. Salut Arnaud.
Salut Will, comment ça va ?
Plutôt bien. Derrière la vitre, on a à la technique Melvin. Salut Melvin.
Salut à tous.
Ça va aussi ?
Ça va très bien.
Au programme de ce comme lundi, on écoutera Eric Chenot en fin d'émission pour annoncer son concert ce vendredi à la cheminée, en partenariat avec le Centre d'art Le Lay. On entendra aussi une chercheuse du Tarn, extrait d'un podcast produit par Radio Abitses et en avant-goût de la Nuit européenne des chercheurs et chercheuses qui aura lieu le 30 septembre prochain à Albi. On parlera aussi théâtre avec la compagnie Les Siphonnés qui se produira ce samedi 24 septembre à Landrevier à Blaye-les-Mines avec la pièce « Je te survivrai ».
Xavier Beneteau, président de Radio Air d'Otan, viendra nous parler des 40 ans de cette radio associative. 40 ans qui fêteront ce week-end avec 40 heures de direct prévu. Eh oui. Christophe de l'Assaut Carmosine Point de Fût nous parlera des 20 ans de l'Assaut qui fêteront donc ce samedi 24 avec un concert de Mortel Paillette mais aussi les One Pass et la Caravane Pass.
On entendra un extrait d'ailleurs. On va tout de suite commencer ce comme lundi avec l'association Racontarn qui vous propose toute une nuit de contes ce vendredi 23 septembre et jusqu'à samedi matin à la MJC de Groyer. Comme lundi,
c'est parti!
Que diriez-vous de passer toute une nuit à voyager par les mots de contes nombreux et variés ? C'est ce que vous propose l'association Racontarn et la MJC de Groyer. Ne pouvant plus se passer de périples nocturnes, les conteuses et conteurs de Racontarn se proposent pour la troisième fois de vous faire traverser la nuit sur les ailes de leur récit entre deux verticales de la petite et de la grande aiguille. Sept artistes vous amèneront d'histoire en histoire vers le cœur de la nuit, puis le lever du jour. C'est la troisième grande nuit du conte. Elle aura lieu de ce vendredi 23 septembre au samedi 24 septembre à la MJC de Groyer au niveau du rond-point Rhin et Danube. Ça, c'est le cadre. Et on va entendre deux voix. Bonjour Eva.
Bonjour Will.
Et bonjour Claudio.
Salut, salut.
Deux voix donc, conteurs et conteuses, qu'on connaît bien sur les ondes de Radio Albitses. On va parler de cette troisième nuit du conte. Peut-être rappeler, avant de développer le long programme de 18h à 6h du matin le lendemain, et puis les modalités aussi, d'où vient l'idée de la première à l'époque, nuit du conte dans quelle tête elle est née ?
Et bien en fait, la première nuit du conte, elle a eu lieu en 2019. On avait décidé de faire un événement un petit peu spécial parce que c'était les 10 ans de l'association Racontarn. Et il nous était venu cette idée-là de faire une nuit du conte, une vraie nuit du conte, c'est-à-dire qui se finisse à l'aube le lendemain. Et ça avait été vraiment un très fouette événement. On était 9 artistes sur scène. Et ça avait été justement tellement chouette qu'on s'était dit qu'on n'allait pas faire ça uniquement pour nos 10 ans, qu'on allait continuer un petit peu, qu'on allait renouveler chaque année dans la mesure des possibilités. Donc en 2020, on l'avait fait à la laiterie, que Eva connaît bien évidemment. Voilà. En 2021, on n'avait pas pu le faire pour des raisons évidentes sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Et cette année, on a voulu le refaire. Et comme la MJC de Groyer avait beaucoup apprécié l'expérience de 2019, ils nous ont littéralement sauté dessus en disant « Mais revenez, revenez, pitié, revenez chez nous !» Et on a dit mais quelle bonne idée.
On va présenter peut-être aussi la 7 artistes cette année. On en a deux en plateau. On présente vos camarades.
On sera avec Marco Bénard, qui vient de 7 fonds, qui fait partie du groupe depuis 2015. Jean-Michel Hernandez, et on a deux invités, des futurs collègues plus jeunes. Il y a un qu'on connaît très peu, c'est un Toulousain qui s'appelle François Genoux. Et il y a une Brésilienne très jeune, Ana Santoro Meira, qui est conteuse, poétesse et artiste de cirque.
Donc des nouvelles têtes sur cette troisième nuit du conte.
Oui, et bien sûr, il y a Céline Verdier qui nous rejoint de sa région plus au nord dans la France maintenant.
Comment ça se prépare une nuit du conte à plusieurs voix, plusieurs histoires, plusieurs ambiances? On peut peut-être juste, je vais dire un petit peu quelques mots-clés, histoire pour toutes les oreilles, ça c'est le départ. Il y a l'apéro conte-tarn, puisqu'il sera question de boire et manger aussi, le repas en auberge espagnole à 20h, le bestiaire familier, la roue qui tourne, une pause vivifiante, à minuit des frissons nocturnes, ensuite on arrive sur des anges domestiques, une pause fortifiante, on se retrousse les manches ensuite, à fleur de peau, appel au soleil, appel à l'éveil et petit déjeuner pour les survivants et survivantes. Comment ça se construit donc tout ça? Chacun arrive avec des propositions qu'on essaie de mettre en lien, ou est-ce qu'il y a des choses qui se font dès le départ à plusieurs? Comment vous le pensez?
Et ben en fait, là, ben, c'est justement cette structure qui marche assez bien qu'on avait décidé en 2019, c'est-à-dire de faire une thématique à chaque horaire. Donc ça, c'est décidé assez loin en amont. Et à partir de là, chaque artiste propose un petit peu ce qu'il a envie de raconter ou de jouer aussi, puisque plusieurs des artistes présents sont aussi musiciennes et musiciens. Et après ça, chaque créneau, entre guillemets, on va dire un responsable qui met un petit peu les propositions en ordre, en sachant qu'il y a donc cette particularité cette année que 5 des thèmes correspondent en fait au thème des 5 livrets de récits de vie que plusieurs d'entre nous ont écrit après les avoir donc récoltés dans le département et publiés aux éditions Dites-moi avec donc l'éditrice qui sera présente et aussi l'illustratrice qui exposera les œuvres originales.
On peut les citer d'ailleurs, c'est Martine Prévost, c'est ça les éditions Dites-moi?
Oui, et l'illustratrice est Carole Aitaïssa.
Et on pourra, je crois, il y aura une exposition justement des illustrations, c'est ça?
Oui, il y aura les œuvres originaux et peut-être des projections de ces œuvres parce que pour les voir en plus grand et les voir en détail pour accompagner les lectures. Donc l'apéro est dédié à des lectures de ces bouquins et aussi à quand même souffler un peu les bougies. Parce que c'est la 10e édition de Temps de Dire. Cette année, on a commencé en 2012. Donc, on passe de... Comment ça s'appelle?
L'année révolue. Donc, on fêtait plusieurs fois les 10 ans.
Oui. Il y a la fameuse histoire des intervalles aussi. Puisqu'évidemment, quand on arrive à la 10 ans plus tard, c'est la 11e édition. Enfin, il y a toujours la même chose. Ça permet effectivement de multiplier un petit peu les anniversaires.
Donc, sur cette troisième nuit du conte, c'est ça, le cadre, c'est la MJC de Groyé. Est-ce qu'on peut décrire un peu l'ambiance de... C'est dans la pénombre. Chacun vient un peu. On peut venir avec son oreiller, c'est ça aussi qu'est-ce qu'on amène comme accessoire et comment on y vient?
Mais au début, il fait encore jour. S'il fait bon, on fait comme la première fois, on sera dehors pour l'apéro. Et pour les histoires pour toutes les oreilles à 18h. Et quand on rentre, tout à fait, hein, les gens nocturnes, on peut arriver quand on veut. Ils arrivent, ils amènent des oreillers et des couettes ou des couvertures. Et c'est cosy. La lumière sera douce et il y aura des tapis et des coussins déjà préparés pour pouvoir osciller un peu entre le sommeil et l'écoute, ce qui est une belle expérience.
Entre et le rêve. Vraiment, on le dit aux auditeurs et auditrices, vous avez le droit de venir et de dormir au moment où il vous sied. Il n'y a aucun problème, c'est fait pour, et de vous réveiller quand vous voulez, de retomber sur une autre histoire, etc. etc.
Au niveau modalité, les tarifs, c'est 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. Et ensuite, on amène pour le repas de 20h le vendredi soir, c'est une auberge espagnole. Mais dans le prix, après, il est prévu l'apéro et le petit déjeuner, c'est ça?
Oui, qui sont offerts par la MJC de Groyé.
Vaut mieux réserver à l'avance, j'imagine, pour que vous ayez une idée de combien de personnes va accueillir le lieu, la maison.
Eh bien, dans l'idéal, oui, parce qu'effectivement, c'est toujours mieux quand on organise quelque chose, de savoir un petit peu combien on va être. Et puis, c'est vrai que la première édition avait eu du succès et il y avait une des salles de la MJC, on va dire celle du début de soirée, entre le repas et minuit, qui là était en configuration, enfin, dire classique, assise avec des chaises qui avaient été un tout petit peu limite au niveau place. Donc oui, il faut mieux, si c'est possible, et on vous interdit pas évidemment de venir à l'improviste, mais c'est quand même mieux si vous pouvez nous faire un petit coucou à l'avance.
Et ça se fait, ce coucou, sur contact@racontarn.fr, racontarn du nom de l'association qui organise cette nuit du conte avec la MJC de Groyer. Qu'est-ce qu'on peut rajouter?
Il y a aussi un numéro de téléphone.
Oui, pour les gens qui n'iraient pas Internet ou qui ne voudraient pas passer par Internet.
Oui, c'est le 06 32 61 02 30. Il y aura un répondeur, mais on peut réserver.
Ok. Justement, j'allais vous poser la question. On peut vous appeler en pleine nuit pour réserver pour la nuit, ou est-ce que vous êtes lève tôt, lève tard, tous les deux?
Alors, dans la limite de ma vie normale, je suis plutôt un lève-tard et un couche-tard. Et là, ça va être un avantage d'être un couche-tard.
On vous remercie, Eva et Claudio, d'être passés au micro de Radio Albitzès. Donc, on redit le lieu, c'est à la MJC de Groyer. C'est le rond-point Rhin et Danube. Donc, c'est ce vendredi à partir de 18h, avec les histoires pour toutes les oreilles, l'apéro et le repas à 20h. Et puis, tout le programme, on peut le retrouver sur des flyers qui traînent un peu partout, sur des marchés aussi, peut-être, on peut les récupérer. À la MJC, j'imagine. On en aura aussi dans le studio, dans les locaux de Radio Albigès. Et sur le site, il y a un site dédié, ou peut-être sur le Facebook aussi de la MJC.
Oui, il y a le Facebook de la MJC, il y a le Facebook de Racontarn aussi.
La date, c'est donc bien ce vendredi 23 jusqu'au samedi 24 à 6h pour le petit déjeuner. Et on peut venir donc à n'importe quelle heure, et on essaye de réserver à contact@racontarn.fr.
Merci beaucoup.
Merci bien.
Merci donc à Claudio et Eva de l'association Racontarn, dont vous pouvez retrouver toutes les nombreuses facettes sur leur site www.racontarn.fr.
Vous écoutez Comme un lundi sur Radio Albigès, 95.4 et 104.2.
Allez, radio locale, quel rôle dans le débat public? Les radios locales médias d'hier ou d'aujourd'hui? Voici deux questions qui seront posées lors des 40 heures de direct proposées ce week-end pour fêter les 40 ans de Radio Air d'Otan, radio associative qui collabore souvent avec Radio Albigès. Nous avons accueilli dans notre studio Xavier Beneteau, président de Radio Air d'Otan, pour nous présenter cette radio et le programme de cette fête. Xavier, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors, tu es président de Radio Air d'Otan, qui va fêter ce week-end, ce samedi 24 et dimanche 25 septembre, ses 40 ans. 40 ans, ça se fête, et vous avez décidé de le fêter avec 40 heures de direct. Oui. Avant de s'attarder un peu sur la programmation de ces 40 heures de direct, est-ce que tu peux nous présenter la grande équipe qui fait fonctionner cette radio?
Oui, bien sûr. À 40 ans, déjà, c'est un bel âge. C'est un bel âge, ça permet à la fois de regarder ce qui est fait et se projeter vers l'avant. Et effectivement, tu as raison pour présenter rapidement l'équipe. Il y a à peu près 6, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 6 salariés chez Air d'Otan, hein, avec des contrats un peu différents, mais enfin des permanents, qui sont dirigés ou orientés ou managés comme on veut par une directrice de la programmation. Et puis ensuite, il y a des bénévoles. Donc les bénévoles, il y a à peu près une trentaine de bénévoles qui tourne au gré des années et qui propose des programmes sur la grille.
Radio Air d'Otan, c'est une radio associative comme Radio Albigès.
Oui.
On dit souvent qu'on est les professionnels de la communication sociale de proximité.
Oui.
Selon toi, un peu, qu'est-ce que c'est l'identité que porte Radio Air d'Otan?
Alors, Air d'Otan, c'est une, oui, tu l'as dit, une radio associative, je rajouterais citoyenne, c'est-à-dire qui donne la parole à tous et qui veut être le reflet à la fois de la vie locale, On est très présent sur de l'information locale, sur le territoire, sur, on peut nous croiser sur les marchés, on va dans les EHPAD, on va dans les prisons, on est très présent sur les événements locaux, énormément présent également sur les festivals de musique, prochainement sur Bol d'Air par exemple, à Puy-Gouzon, mais bon, il y en a d'autres évidemment au cours de l'année. Voilà, on donne la parole aux commerçants, aux habitants, aux retraités, aux gens qui ont des projets, des passions. Donc ça, c'est vraiment notre identité. Voilà, donc vie locale, information et musique, évidemment, puisque la programmation musicale sur Air d'Otan est assez présente et je pense assez appréciée des auditeurs.
Et quel est le territoire que vous couvrez, votre territoire d'action ?
Alors le territoire d'action, c'est, on va dire, d'une manière globale, le département du Tarn, avec une petite exception sur le secteur d'Albi, puisque nos cousins d'Albigès sont très présents sur le secteur aussi. Mais en gros, voilà, c'est le département du Tarn, l'ensemble du département, puisqu'on a, on a trois fréquences et deux studios, un à Gaillac et un à Lavaur, et une fréquence sur Castres également.
Allez, on les annoncera en fin d'émission, mais il y a aussi le site internet de Radio Air d'Otan. Et les réseaux sociaux.
Voilà, absolument. Donc le site internet, c'est Air d'Otan, donc c'est écrit RDAUTAN .fr sur internet, sur le web. On est présent sur Twitter également et sur Instagram et sur Facebook RDOTAN.fr.
Et oui, c'est ça aussi la radio en 2022. C'est une radio qui est présente pas seulement sur les ondes, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. On en reparlera puisqu'il y aura un temps fort aussi autour de la question la radio, média d'hier ou d'aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes, les temps forts de ces 40 heures de direct qui commenceront donc le samedi 24 septembre à partir de 7h du matin.
C'est ça.
Jusqu'au dimanche 25 septembre.
23h. Voilà. Donc effectivement, ouverture de l'antenne. Donc je ne serai pas trop réveillé, mais enfin, la tâche m'a été attribuée. Donc samedi matin à 7h, on ouvre l'antenne. Donc on va présenter un petit peu le programme, ce qui va se passer pendant ces deux jours. Les temps forts, le samedi, surtout 10h30, on va organiser une table ronde autour de la thématique de la radio locale. Quel rôle dans le débat public aujourd'hui de nos radios associatives. Donc ce sera en présence évidemment d'élus et de responsables locaux. Très important aussi, le samedi, à partir de 13h30 jusqu'à, on va dire, 20h, 21h, on aura une scène musicale dans la cour. Donc c'est au 10 rue de la mairie à Lavaur, où là, des groupes et des artistes vont se succéder pour faire des concerts. Environ d'un quart d'heure, 20 minutes, avec des interviews, etc. Donc évidemment, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, que vous soyez du Tarn ou d'ailleurs, ou de passage ou résident. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc ça, ce sont des concerts gratuits. Il y aura une buvette aussi. Donc ça permet de passer l'après-midi ensemble en musique. On peut faire visiter les locaux, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros temps fort.
Quelques noms de groupes, d'artistes locaux qui seront présents au micro ?
Oui, alors il y a de tout. Il y a de la pop, du rock, la chanson française. On a Caro qui fait de la chanson française. On a Dadou Afaka, qui a beaucoup tourné cet été, qui est la révélation tarnaise, l'une des dernières révélations du département, qui fait de la pop. On a Océane Shark aussi, qui est passé au Bollégation il n'y a pas longtemps. Eux, c'est plutôt du rock. Ils vont ouvrir d'ailleurs, je crois, le début d'après-midi. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Ensuite, le samedi à 23h, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la nuit aussi, du samedi au dimanche, c'est 40 heures de direct. Donc on a une équipe de nuit. Voilà, on fait une équipe de nuit qui sera orchestrée par Patricia. Et là, donc, ça va être plus orienté sur les métiers de la nuit. Donc, une libre antenne avec, évidemment, de la musique, des archives, des passages d'émissions. Mais, avec des thématiques particulières liées à la nuit, en fait.
Ouais, peut-être aussi des émissions, des lives autour des musiques électroniques, puisque je sais qu'il y a Shérif qui anime une émission autour des musiques électroniques, K2D ou quelque chose comme ça.
KDE. Oui, c'est ça. Oui, alors, peut-être la nuit. Alors, je ne connais pas encore le programme, c'est Patricia qui l'a mis en place. Je sais qu'effectivement il y aura je pense qu'elle prévoit aussi, alors tu as raison, un éclairage sur des émissions qui se déroulent plutôt le soir, et je sais que notamment il y aura un hommage à Eric qui nous a quittés il y a quelques temps et qui faisait une émission du samedi soir un petit peu dans l'idée des années 80, de la fièvre du samedi soir. Il passait beaucoup de disco, de funk, donc voilà, donc il y aura peut-être aussi ce type d'hommage aux disparus, aux gens qui ont œuvré pour la radio. Voilà.
Et ensuite, le dimanche 25 septembre, il y aura d'autres temps forts, avec notamment une table ronde autour de cette grande question, la radio média d'hier ou d'aujourd'hui.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, à 10h30 le dimanche, Albigès, vous êtes convié et invité, bien évidemment, autour de cette table ronde. Donc, sur les médias du passé et de l'avenir, donc, plusieurs radios partenaires seront présentes, avec les bénévoles, les anciens et les bénévoles actuels, évidemment, sur cette thématique. Et puis, deuxième temps fort du dimanche à 13h, là, on échangera, on passera des archives, on discutera autour de projets avec les anciens, les nouveaux, les salariés, etc. Et bien évidemment, toujours de la musique le dimanche sur l'antenne de Herdotan. Et donc, ça se terminera le dimanche à 23h.
Voilà. Ok, 40 heures de direct pour les 40 ans de radio Herdotan.
Et on ira se coucher.
La radio, donc, c'est un lien avec le territoire, un lien aussi avec les auditeurs. Et justement, vous faites un appel à témoignage pour que les auditeurs justement passent aussi à l'antenne via des messages laissés sur un répondeur ou des enregistrements réalisés.
Oui, absolument. Et merci de me tendre la perche parce qu'on a déjà des gens qui se sont manifestés. On a enregistré quelques témoignages. D'autres vont venir en direct parler au micro. Donc n'hésitez pas d'abord par curiosité pour visiter les locaux et puis on vous tendra le micro et si vous appréciez Herdotan, vous pourrez nous dire pourquoi, qu'est-ce que vous avez partagé comme souvenir avec nous. Je me souviens notamment d'une dame qui nous avait envoyé un mail en disant je suis partie accoucher, mon mari m'a emmené en catastrophe à l'hôpital et d'avoir Herdotan lorsque j'avais les contractions dans la voiture, ça m'a aidé, ça m'a fait du bien, merci. Donc voilà, ce genre de témoignage c'est toujours intéressant. Et puis d'un point de vue historique, si des anciens veulent témoigner et de l'évolution de la radio, parce qu'elle a aussi évolué pendant 40 ans, tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez nous envoyer un petit mail d'ailleurs. Alors, il y a un mail spécifique qui a été créé pour ça. Le mail, c'est 40ansdelaradio@gmail.com. 40 ans, évidemment, en avec un S, à la fin, 40 ans de la radio, tout attaché, @gmail.com.
Merci donc Xavier Beneteau, président de Radio Herdotan, qui fête ce samedi 24 et dimanche 25 septembre ses 40 ans avec 40 heures de direct. Pour terminer, Xavier, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a apporté, motivé à faire du bénévolat dans une radio associative ?
Moi, ce qui m'intéressait, d'abord, ma grande passion, c'est la musique. Et puis, je suis assez bavard, j'aime bien aller voir les gens, je suis curieux. Et la radio, c'est quand même un moyen, tout en étant immobile, derrière un micro, de rentrer en contact avec le reste du monde. Et puis, de découvrir des passions, des cultures, faire partager des choses. Donc c'est ce qui m'a intéressé en premier. Et essayer d'entraîner, autant faire se peut, d'autres personnes dans cette direction. Voilà. C'est le secret de ça, en fait, par rapport à ce qui se passe surtout en ce moment, c'est de partager des passions. Ce qui nous fait vivre et ce qui fait notre humanité, c'est ça, c'est la passion. Et la radio est un moyen de partager ça.
Merci Xavier, on vous souhaite 40 ans encore de longévité à toute l'équipe de Radio Herdotan.
On ne sait pas si on sera encore là, mais on l'espère. Oui, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon.
Oh non, pas lui.
Allez, branchez-vous donc, même si vous êtes en voiture, sur les fréquences de Radio Herdotan pour suivre ces 40 heures de direct. Radio Herdotan du côté de Lavaur, c'est sur le 105.1, à Castres le 102.8 et le 100.2 du côté de Gaillac et bien sûr partout ailleurs sur le site internet herdotan.fr. L'asso Carmosine Point de Fût fête ses 20 ans ce samedi 24 septembre avec un concert des groupes Mortel Paillette, les Wampas et la Caravane Pass. Nous avons contacté par téléphone Christophe Tourcel pour nous parler de cet asso incontournable du paysage carmosin. Christophe Tourcel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes secrétaire adjoint de l'asso Carmosine Point de Fût qui va fêter ses 20 ans le samedi 24 avec une belle soirée concert. avec La Caravane Pass, les One Pass et le groupe Mortel Paillette. Alors, première question, Christophe, comment vous vous avez rencontré l'asso Point de Vue et comment vous y êtes impliqué aujourd'hui?
Bon, l'asso Point de Vue, à la base, c'est une bande de copains du lycée de Carmont qui ont voulu, après les études supérieures, continuer à rester ensemble, à faire des choses ensemble, et donc de faire vivre le Carmontais. Donc voilà, moi j'ai mis un petit peu au niveau de la musique, je suis rentré dans cette association pour continuer à faire des concerts, faire bouger le Carmontais avec la Bodega et des événements comme celui du samedi 24.
Et ce depuis combien de temps?
Moi, je suis à Point de Vue depuis 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans que je suis à Point de Vue. Je suis rentré là pour la première bodeguée et pour quand on a relancé aussi le festival. Le festival, c'est le festival qu'on fait au mois de juin au Canou, là, un festival familial où l'après-midi on fait des spectacles pour les enfants et le soir des concerts. Voilà, où je suis pas mal impliqué sur ce festival-là qu'on a bien développé depuis maintenant 2-3 ans.
Alors voilà, le festival, c'est un des événements qu'organise l'asso Point de Vue parmi bien d'autres. C'est possible de citer les autres événements que vous faites en principe tout au long de l'année?
Voilà, deux gros événements de base, c'est le festival samedi là, au mois de juin au Canou, et ensuite, monsieur la Bodega, pendant les fêtes de Saint-Privat, pendant 4 jours dans la rue d'Isquier, on ferme la rue, on fait le vendredi la Bodega, le samedi des concerts, le dimanche le groupe Les Charrettes, et le lundi on finit avec le Pentaglisse Gélan. Ça, c'est les gros événements de Point de Vue. Et après, c'est cette année, au mois d'avril, on a fait un auto déjanté avec la troupe des Boudeuses. Ensuite, bon, on est partenaire aussi sur le Nectar Festival le week-end prochain sur Carmont, sur la fête de la musique aussi sur Carmont. Et ensuite, on peut faire des événements comme des quiz dans au pub, dans les cafés de Carmont ou avec le cinéma. Et là, cette année, une nouveauté, on va faire une soirée pour le vin priveur, pour le vin nouveau, le samedi 19 novembre à Rosières. Voilà. Après, ça va être des événements ponctuels que chaque année, ils changent, quoi.
Ok, donc l'asso Point de Vue, 20 ans déjà, on voit bien que c'est une association locale, carmosine, qui est bien implantée, qui a su tisser des liens avec les acteurs locaux du Carmosin.
Ben, oui, exactement, ouais. On est très impliqué sur le Carmosin, donc on travaille avec d'autres associations, et on est soutenu là, maintenant donc, par la mairie de Carmont, là, qui nous soutient sur le festival. On soutient aussi sur le concert des 20 ans, là, dès qu'on a présenté le projet de refaire les concerts à la Vérorie, parce que pour nous, c'est la salle de la Vère, la salle qui a amené les concerts à l'époque de Rock Time. On avait envie de refaire bouger le Carmosin, on est soutenu aussi par la Comme-des-Combes, la Comité des Communes, et la DA du Tarn, le Conseil Général. C'est pour ça qu'il y a le groupe Mortel Paillette qui joue, quand ils sont partenaires, c'est eux qui sont les lauréats du Musique in Tarn, de l'ancien Rock in Tarn. Voilà. On nous tenait à cœur d'avoir un groupe aussi local pour lancer cette soirée.
Et oui, Christophe, vous parlez de l'asso Rock Time, voilà, une asso qui n'existe plus, voilà, qui faisait bouger le paysage culturel au niveau des musiques rock sur le Carmosin. Où est maintenant justement la place de Point de Vue dans le Carmosin? On sait que des fois il peut y avoir un déficit au niveau peut-être animation culturelle. Qu'en est-il selon vous pour aujourd'hui la place de Point de Vue dans ce monde associatif et culturel?
Et voilà, mais quand on voit tout ce qui se passe sur Carmosin, c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup d'événements et qu'on existe à travers tous ces événements, qu'on a la fête à musique, bon, comme j'ai dit, le week-end prochain, il y a un Nectar Festival, et on essaie de faire bouger les choses. Ça a toujours été le but de l'asso, quoi. Bon, on n'a pas la prétention de organiser un festival, comme on vient de avoir les Rock Time avec les Summer, mais bon, voilà, si ce concert des 20 ans se passe bien, si le public est au présent, c'est un peu qu'on peut pérenniser, pourquoi pas la rentrer chaque année, c'est faire un événement, mais un concert à la Vérorie, quoi, faire la fin sur le terrain.
L'asso Point de Vue se veut aussi une association locale et ouverte sur le monde, notamment via un événement que vous avez proposé depuis quelques années qui s'appelle la Bodega. Vous pouvez nous présenter cet événement?
Voilà, la Bodega depuis 2017, à l'initiative de Rémi Fréjaville, qui est vraiment un des membres fondateurs de l'association, parce qu'il était là depuis le début, depuis 2002. On avait voulu se défendre un peu la cause militante et la cause LGBT, avec pour les personnes pour qui c'est difficile vis-à-vis de la sexualité, qui sont rejetées chez eux, avec pour soutenir des associations comme le Refuge ou Diversité Pastel, de faire cet événement où on a fait venir des drag queens, des transformistes, des danseuses de cabaret, et cette année donc on a fait venir Théo Lavabo là, et chaque année c'est un véritable succès. Autant la première année il y a eu beaucoup de pression parce qu'un peu d'inconnu sur Carmo, ça parlait beaucoup, il y a beaucoup qui n'étaient pas trop pour, mais là on se rend compte que maintenant c'est une grosse date et une bonne soirée festive et qui permet de donner visibilité à cette cause LGBT aussi.
Et peut-être de faire évoluer les mentalités?
Exactement, ouais, c'est aussi plus ce qu'on a dit, attention Carmon, tout ça, bon, ce qu'on a pu dire sur le passé de la mine et tout ça, mais bon, je crois que maintenant les mentalités ont évolué comme partout et ça se passe bien, ça se passe très bien même, c'est vraiment quelque chose de positif.
Ok, merci Christophe Tourcel, donc secrétaire adjoint à l'asso Point de Fût, qui fête ses 20 ans ce samedi 24 septembre du côté de Carmaux. Peut-être pour terminer, un mot pour nos auditeurs albigeois ou carmozins, peut-être qui souhaiteraient participer à tout le beau programme que vous proposez avec Point de Fût. Peut-être que c'est possible de faire des partenariats ou bien du bénévolat.
Ah oui, nous, le bénévolat est une association qui évolue en permanence, parce que bon, elle a 20 ans, donc... C'est un très point de l'âge, donc pas se renouveler, on peut venir adhérent bénévole à Point de Fût. Voilà, on a une activité assez festive, on est de second degré. Voilà, on a un esprit pour faire bouger les choses. Et donc le samedi 24, on convie tout le monde à venir au concert. Et s'il y en a qui veulent nous rencontrer pour nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Le samedi 24 à 19h à la salle François Mitterrand. Voilà, avec voilà, une belle affiche, je crois, passer une très belle soirée. Et les vannes passent, la caravane passe et Mortel Paillette.
Merci Christophe Tourcel et un joyeux anniversaire à l'Osso Point de Fût, 20 ans, ça se fête.
Eh bien, merci beaucoup à Radio Albigès.
Ne manquez pas cette belle soirée du samedi 24 septembre à Carmaux pour les 20 ans de Point de Fût. Soirée-concert avec trois très bons groupes, Mortel Paillette, les Wampas et la Caravane Passe. On écoute d'ailleurs le titre Nomadic Spirit du groupe La Caravane Passe, titre extrait de leur dernier album.
Allez, 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 allez. شفت دون جبال وصحاري سفريت وتخطيت المحاني حبابي هذا حالي نعود ليكم مجرالي مصفري يا موريالي Welcome to Exit A
Nomadic Spirit Gypsy goes to Africa From Budapest to Essaouira Back from USSR to Lampedusa Crossing Babylon to Antalya Europa
Persona non grata
America
Persona non grata
Zyganski
Welcome to Africa
Enter through the exit
Nomadic spirit
Just move your body, get out this place, go back to your country. I like to move, I can dance like a gypsy. Looking for welcoming country. In the west there,
persona non grata.
In the east there,
persona non grata.
In the south there,
welcome to Africa.
Enter through the exit,
nomadic spirit.
La Caravane Passe, toujours sur les ondes de Radio Albigès. La Caravane Passe que vous pourrez apprécier ce samedi 24 septembre à Carmaux pour les 20 ans de Point de Fût. C'est bien comme un lundi que vous écoutez en direct le lundi à midi et rediffusé le soir à partir de 18h, mais aussi en podcast sur notre site internet et nos réseaux sociaux.
Et maintenant, que faire maintenant?
Ben, on reste calme et on continue d'écouter comme un lundi sur Radio Albigès.
Les Siphonnés, ce sont six amis amoureux des planches de théâtre, du rire et des émotions. Ils seront ce samedi 24 septembre à 20h30 à la salle Daniel Balavoine à Blaye-les-Mines avec la pièce « Je te survivrai ». On en parle avec Arnaud, un autre Arnaud, cheville ouvrière de la troupe. Arnaud Broussy-Legrand, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous reçoit aujourd'hui dans les studios, les nouveaux studios de Radio Albigès à La Panouse. Vous connaissiez les anciens, je crois, à Quintepo, vous étiez venu déjà.
C'est ça, on est venu plusieurs fois dans les anciens, mais c'est
alors,
une première aujourd'hui.
Quand vous dites « on », justement, là, on vous retrouve tout seul, mais c'est toute une compagnie, c'est des camarades, on va les présenter aussi. On va parler de théâtre, c'est bien ça?
C'est ça.
Et on va parler des Siphonnés, un nouveau nom qu'on commence à mettre dans les oreilles des albigeois et albigeoises. Vous, on vous a connu sous d'autres noms, est-ce qu'on peut rappeler un peu l'histoire?
Oui, on a débuté sur le nom des Brigands Drôles, il y a quasiment 20 ans maintenant, on est des vieux de la vieille. Et voilà, on s'est un petit peu émancipé, on a créé notre compagnie pour avoir plus de liberté et plus de choix. Voilà, on a quitté la compagnie de la découverte en toute amitié. On les salue d'ailleurs et on leur souhaite bon courage pour leur prochain spectacle. Mais aujourd'hui, c'est la place au Siphonnés, une nouvelle troupe et avec un nouveau spectacle qui arrive très vite.
Il arrive tellement vite que c'est samedi 24 septembre prochain, c'est à la salle Daniel Balavoine à Landrevier, à 20h30, on va en reparler. Peut-être nous dire, vous, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené au théâtre?
J'ai commencé le théâtre tout simplement au lycée. Voilà, j'ai découvert ça grâce à un professeur de français, Monsieur Labitte, et j'ai été passionné tout de suite. Donc j'y ai mis un pied dedans et je ne l'ai jamais quitté. Donc depuis, j'ai joué plusieurs pièces, plusieurs rôles et maintenant j'écris. Et donc je joue mes propres spectacles. Donc voilà, au bout de... ça fait maintenant, on ne va pas dire le nombre d'années, mais très longtemps que je suis sur scène. Et avec des spectacles seuls en scène, des duos. Et maintenant, Je te survivrai, c'est le quatrième spectacle que j'écris. Donc j'ai hâte de le présenter au public.
Alors justement, au début, c'était pas forcément l'écriture, c'est assez nouveau l'écriture ça,
c'est assez nouveau l'écriture, ouais. Oui, mais c'est le confinement qui m'a amené à l'écriture. J'avais écrit un seul en scène avant, mais jamais encore de pièce à plusieurs personnages.
C'est plus simple d'écrire d'abord pour soi, mais après, quand il s'agit d'écrire des personnages pour d'autres, c'est...
Alors je sais pas si c'est plus simple, ça m'a semblé à moi en tout cas plus simple effectivement pour d'écrire sur moi. Mais après très vite j'ai eu envie d'aller explorer d'autres parcours et c'est grâce à ce seul en scène d'ailleurs que j'ai commencé à écrire pour d'autres puisque un personnage de ce spectacle m'avait marqué et je lui ai écrit tout un spectacle co-écrit d'ailleurs avec Benjamin. Voilà, c'était le spectacle Balance ton vieux, pour lequel on était venu vous voir d'ailleurs aussi et ensuite tout naturellement la troupe m'a demandé si c'était possible aussi. J'ai essayé et ça leur a plu, donc on a foncé.
Je reviens peut-être sur les premières amours du théâtre. C'est quoi qui vous a séduit justement? Et est-ce que vous étiez timide et que vous avez passé un cap? Est-ce que vous étiez déjà un peu dans la représentation c'est quoi le parcours?
J'étais pas très timide, j'étais réservé, oui. Mais on ne pouvait pas dire que c'était la timidité. J'avais envie d'explorer ça. J'avais des copains qui faisaient déjà partie de ce club au lycée. Donc en toute amitié, j'y étais. Et ça m'a passionné de devenir quelqu'un d'autre pendant une heure et demie. Se permettre du coup des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui m'a plu.
Et quand on parle de théâtre, c'est assez vaste. Il y a plusieurs registres. C'est quoi vos domaines de prédilection?
Alors c'est la comédie.
Ouais.
Après, je ne suis pas fermé sur d'autres types de théâtre, mais c'est vrai que c'est la comédie dans laquelle je suis bien et qui me transporte. Et c'est surtout le fait de jouer des personnages qui ne me ressemblent pas. Voilà, j'adore jouer des vieux personnages. Et là, dans ce spectacle, je ne vais pas trop en dévoiler, mais je joue un personnage qui est assez éloigné de moi aussi.
Donc le spectacle « Je te survivrai », écrit par vous, Arnaud, et mise en scène Carlos Pinto. La mise en scène, justement, comment ça se travaille à partir d'un texte? Comment on met tout ça en forme, justement? Comment ça s'opère?
Alors Carlos nous fait souffrir énormément. Il nous fait travailler d'abord sans le texte. Pour vraiment travailler le jeu d'acteur, les émotions. Il nous fait tout détricoter pour qu'on soit le plus neutre possible, pour ensuite, justement, quand on attaque les répétitions avec le texte, oui, qu'il puisse nous amener là où il a envie, sans qu'on ait déjà une musique dans la tête qui nous met des barrières, en fait. Donc, du coup, voilà, il nous a fait apprendre le texte sans intonation, de façon très plate, presque à la chaîne. Voilà, on a fait beaucoup d'italienne, du coup, ces réunions où on se disait juste le texte comme ça.
Et il nous arrêtait. On appelle ça une italienne.
On appelle ça une italienne, oui. Et il nous arrêtait dès qu'on y mettait une petite émotion. Mm-hmm. Et ça porte ses fruits parce que c'est vrai qu'une fois qu'on commence vraiment à rentrer dans les personnages, à faire la mise en scène, où il nous dirige pour nous dire où nous placer, les intentions qu'il veut qu'on amène au personnage, ben finalement, on est une page blanche et on peut tout écrire. Donc c'était très intéressant de travailler avec Carlos. C'est la deuxième fois moi que je travaille avec Carlos puisque c'est lui qui avait mis en scène mon seul en scène. Mm-hmm.
Et là c'est One Man Show.
One Man Show, j'allais dire. Mais là c'est la première fois du coup qui nous fait travailler tous les six. Et voilà, on apprécie énormément.
C'est beaucoup de, ben, j'imagine que c'est beaucoup de travail. Et après, quelle part à l'improvisation, in fine, est-ce que vous permettez des changements de dernière minute, y compris peut-être pour s'amuser entre collègues sur scène?
Ouais, tout à fait. On aime bien se faire des petites surprises. Ouais. Alors sur une première, je vous avoue que on va peut-être pas en faire beaucoup, mais déjà, Carlos nous laisse assez libre pour aller explorer et faire des blagues si on a envie de faire des blagues. Parce que c'est ça aussi le sel du théâtre, c'est que ça reste un spectacle vivant et à l'intérieur. On a un texte qui nous dirige, mais on peut aussi se permettre des fois d'aller faire des petits détours. Voilà, certains en font plus que d'autres.
Le synopsis, ça parle de... Alors, le titre, c'est « Je te survivrai », ça parle d'une école de survie, c'est ça ?
C'est ça.
Et donc, il y a des nouveaux stagiaires et c'est là que la scène va se développer
en
interaction.
Tout démarre à l'arrivée de nouveaux élèves. Donc, on rentre dans l'école de Stéphane Brocard. Qui a appelé l'école « Je te survivrai » en hommage à la chanson que tout le monde connaît.
Ouais. Je ne sais plus le nom du chanteur, mais la chanson est connue.
Je ne pourrais pas dire de bêtises non plus, je ne me rappelle plus non plus. Et donc du coup, il accueille ses nouveaux stagiaires. Et ces nouveaux stagiaires sont hauts en couleur, ne se ressemblent pas du tout. On va d'une star de cinéma à une voyante, à une religieuse. Il y a aussi un jeune homme qui est là pour se préparer à Koh-Lanta. Mm-hmm. Voilà, et un drag queen. Donc vraiment des personnages qui vont se découvrir. Et malheureusement, sur ce stage de survie, le confinement est annoncé. Mmh. Et un stage qui devait durer une semaine, ben on se retrouve enfermé sur toute la durée.
Dans
un huis clos, avec rien en confort, pas de nourriture, pas d'eau, puisque tout cela était prévu qu'on aille le chercher dans la nature. Mmh. Et bon, ça va un petit peu exploser, oui.
Comment est fait le cast en fait ? Qui choisit son rôle ? Est-ce que vous avez pensé à des comédiens pour écrire les rôles ou est-ce que justement chacun s'est un peu choisi sa préférence ?
Alors là, j'ai écrit complètement pour les comédiens qui étaient avec moi. Donc j'ai essayé de leur écrire des rôles sur mesure. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient envie d'explorer, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'interpréter un petit peu, les caractères des personnages qu'ils avaient envie d'incarner. Et j'ai écrit autour de ça. Mmh. Voilà. Bon, on n'était pas très surpris au final des choix de chacun. Et finalement, l'idée et le thème viennent de moi. Je les ai mis dans un univers particulier.
Je rappelle aux auditeurs qui nous prendraient en cours qu'on est toujours avec Arnaud Broussy-Legrand de la compagnie Les Siphonnés. On parle de la pièce « Je te survivrai » qui sera jouée le samedi 24 septembre à la salle Daniel Balavoine à Landrevier à 20h30. Déjà, on va le dire une fois, mais on le répétera en fin d'émission. Comment on réserve, comment on prend sa place ?
Alors, il n'y a qu'à venir. Ouais. Pas de réservation puisque ce spectacle se joue dans le cadre de la fête du Secours Populaire. Mmh. Donc il y a toute une journée gratuite et libre d'accès. Donc le spectacle est également gratuit. Il y aura peut-être, on demandera peut-être quelque chose pour voilà qui sera reversé au Secours Populaire. Mm-hmm. Et donc du coup ils nous ont invités à jouer pour cette occasion-là. Donc vous venez, ça commence à partir de 14h. Voilà, je sais qu'il y a un petit grand jeu pour les enfants avec un personnage qui va apparaître pour les faire un petit peu rêver. Il y a un concours de pétanque, des food trucks pour se restaurer et la soirée théâtre ensuite avec nous.
Sur le même site, tout ça
Tout ça sur le même site et sur la base de loisirs de l'Indrevier. Mmh.
Le rapport au public, justement, quel rapport vous avez ? Est-ce que vous l'interpellez ou est-ce que ça, le quatrième mur est vraiment fermé, par exemple, pour cette pièce ? Ou est-ce qu'il y a des petits jeux, des fois, des petits regards envers le public ?
Alors non, là, pour le coup, le quatrième mur est fermé pour justement
pour le huis clos.
Faire que ce huis clos existe réellement. Mm-hmm. Voilà, ça peut nous arriver d'interpeller le public, mais sur ce spectacle-là, ce ne sera pas le cas.
Est-ce que justement, quand même, à la fin, comme on dit, est-ce qu'il y a un bord de scène? Est-ce que justement les gens pourront discuter avec vous du contenu de...
Oui, bien sûr. Ouais. On sort toujours de derrière les rideaux.
Ouais. On boit un coup avec tout le monde.
Voilà, on boit un coup, on grignote quelque chose et on discute. On adore rencontrer les gens en fin de spectacle.
Les projets de la compagnie Les Siphonnés, c'est Je te survivrai, donc 24 septembre. J'imagine qu'il y aura d'autres, ça va appeler d'autres présentations. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours aussi, peut-être sur des formules plus, on parle de seul en scène ou autre?
Alors pas de seul en scène, mais il y a le duo de Balance ton vieux, qui va reprendre la route, effectivement, avec des dates toulousaines notamment. Donc, et ensuite un spectacle en femme. Mmh. Un spectacle jeune public que j'ai également écrit et co-écrit avec Carlos qu'on espère mener à bien d'ici juin.
Voilà, on va c'est commencer un spectacle en direction des enfants ou avec des enfants?
En direction des enfants. Okay. Voilà.
Bien, mais on vous souhaite une bonne première, c'est bien ça?
C'est
la première. Donc jouer en public à Landrevier, le samedi 24 septembre à la salle Daniel Balavoine, dans le cadre de la fête du Secours Populaire. Et puis on vous réinvitera pour voir un petit peu comment ça s'est passé et pour la suite, pour parler des autres actualités de la compagnie Les Siphonnés.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était une entrevue à retrouver dans son intégralité ce vendredi 23 septembre à 20h sur nos ondes ou encore ce samedi 24 à 10h du matin dans notre créneau hors format.
Comme un lundi, le journal d'information de Radio Albigès.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi.
Tous les lundis à midi et 18h, mais aussi en podcast sur radioalbigès.com.
La nuit européenne des chercheurs et chercheureux, ou chercheuses, on ne sait pas trop encore comment on dit, aura lieu dans plusieurs villes le vendredi 30 septembre prochain, et notamment à Albi, au quartier culturel des Cordeliers, de 18h30 à 23h. Radio Albitzès est partenaire de l'événement, notamment en produisant deux podcasts autour de la thématique de cette édition, l'imprévu. On vous propose un extrait de l'un de ces podcasts, réalisé avec l'aide technique de la radio étudiante de Castres, Radium.
Alors, je m'appelle Réjeanne Dalcé, je suis maître de conférence à l'INU Champollion, nommée à l'école d'ingénieurs Isis de Castres. Mon domaine de recherche concerne la localisation pour les réseaux de capteurs sans fil, ainsi que le suivi des personnes âgées grâce à des objets connectés. Personnellement, je suis une personne qui a beaucoup de mal à se déplacer sans GPS, en particulier quand je suis en voiture. Autrement dit, je me perds facilement. Les objets de l'Internet des objets sont susceptibles d'avoir le même problème que moi à l'intérieur des bâtiments. Donc je travaille sur des outils et des méthodes qui vont permettre à ces objets de déterminer où ils se trouvent, leur position, à l'intérieur des bâtiments, à partir des signaux radio qu'ils peuvent recevoir, donc typiquement des signaux Wi-Fi, des signaux Bluetooth et des signaux d'autres technologies comme l'ultra-wideband. L'autre volet de ma recherche concerne le développement de cannes connectées pour les personnes âgées dépendantes. Il s'agit d'un projet qui a commencé à Toulouse et qui continue à Castres avec le professeur Thierry Val de l'Université de Toulouse et le docteur Imen Megdish de l'INU Champollion. Donc, dans ce contexte, nous utilisons des cannes connectées que les personnes âgées sont censées utiliser pour pouvoir prédire les déséquilibres. Parce qu'en fait, le déséquilibre, c'est un indicateur de futurs problèmes de santé qui peuvent arriver à ces personnes âgées. Donc, plus on va les détecter en amont, plus tôt on va pouvoir proposer des thérapies, une prise en charge de santé pour éviter que la personne arrive jusqu'à la dépendance.
Est-ce que vous avez prévu, vous, d'en être là où vous êtes aujourd'hui et maintenant?
Absolument pas. En fait, je crois que j'avais 17 ans quand on m'a demandé est-ce que je pensais partir en doctorat. Bon, d'abord, je n'avais aucune vision sur ce genre de thématique. Pour moi, je devais décrocher mon diplôme d'ingénieur et c'était fini. Mais j'ai eu la chance pendant mes études de rencontrer des personnes très intéressantes qui m'ont permis de découvrir la recherche et aussi, surtout, d'y prendre goût.
Est-ce que votre approche scientifique consiste justement en une prédiction des choses? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi?
Alors, je vais répondre en deux temps. Donc, dans le domaine de la localisation, C'est vrai qu'il y a certains de mes collègues qui utilisent des méthodes de prédiction pour déterminer la position et lutter contre les erreurs comme les imprévus. Bon, cette prédiction repose sur un apprentissage des modèles de mobilité et j'ai fait le choix de ne pas incorporer dans ma localisation ce genre d'outil pour le moment parce que je travaille sur des objets qui sont très très contraints en termes de ressources de calcul. Mais cela ne signifie pas que ces méthodes sont à oublier puisqu'elles interviennent dans l'autre facette de mon travail qui concerne les cannes connectées. En fait, lorsque je dis qu'on prédit les déséquilibres, c'est à partir de modèles qui ont été construits sur des corpus de personnes âgées qu'on arrive à déterminer que là, il va y avoir un déséquilibre et potentiellement une chute de la personne âgée. Donc oui, effectivement, ces méthodes interviennent dans mon travail. Un résultat négatif est aussi un résultat. Donc, le fait de savoir que ça n'a pas marché, déjà, ça a permis de débroussailler une partie de la zone à découvrir, de la connaissance à générer. Après, si on s'intéresse à des changements de méthode, bon, je suis encore au début de la carrière, donc je vais dire que ça dépend du type d'activité de recherche que je suis en train de mener.
Est-ce que vous avez un regard sur la discipline? Est-ce qu'elle est plutôt à tendance à accueillir l'erreur ou l'échec? Ou est-ce qu'elle est plutôt à accueillir plutôt à la chasser? À savoir ne pas avoir droit à l'erreur.
Alors, c'est très intéressant que vous posiez la question en mettant échec plutôt qu'imprévu, parce que ce n'est pas toujours la même chose. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Si je prends votre question et je mets imprévu, et je reste par exemple dans le domaine de la localisation, l'imprévu, c'est une erreur de mesure, par exemple, qui dépasse une certaine plage, donc qui va potentiellement rendre fausse mes méthodes. Ça, on va considérer que ce n'est pas un problème à partir du moment où on s'est intéressé en amont à pouvoir détecter ce genre de situation et y remédier. C'est justement l'un des aspects du travail que je mène en ce moment. Détecter que une donnée qui m'arrive, en fait, elle n'est pas cohérente avec le reste et trouver une meilleure valeur pour remplacer cette valeur incohérente. Maintenant, si on parle de l'échec, dans le sens où un chercheur s'investit dans un travail avec une idée de solution et que ça ne lui permet pas d'avoir un résultat extraordinaire ou en tout cas un résultat qui est meilleur que ce qu'on obtient dans la littérature, effectivement, on peut dire que de manière générale, j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas facile à accepter. En tout cas, ça donne difficilement lieu à une publication, et sachant que les chercheurs sont évalués sur la qualité et le nombre de leurs publications, en tout cas une bonne partie de leur évaluation porte sur ce point, le fait de ne pas pouvoir le publier, c'est quand même dire que c'est pas accepté. L'imprévu qui me fait le plus peur est lié à l'un de mes rêves de recherche. Alors, ce rêve de recherche, c'est arriver dans une zone, par exemple, où il y a eu une catastrophe, il y a des bâtiments qui se sont écroulés, lancer un certain nombre d'objets, et à partir de ces objets, créer un réseau qui soit capable de prendre des mesures dans la zone pour, par exemple, retrouver des personnes, et que ce système soit autogéré. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui va déposer soigneusement chaque objet pour dire celui-là se trouve à telle coordonnée, le prochain à telle coordonnée, etc. Et donc, c'est un rêve. Ma grande peur, c'est de recevoir des données et qu'elles n'aient absolument aucun sens parce qu'il y a des cas que je n'aurais pas anticipés.
On parle là, par exemple, de drones.
De drones ou d'objets dispersés. En fait, d'objets qui ont besoin de calculer leur position dans un environnement qui potentiellement n'est pas desservi par le GPS. Je ne vais pas dire drone, je vais dire un objet qui peut se déplacer. Et en fait, si cet objet peut se déplacer, mais il est dans un environnement souterrain, il n'a plus accès à des signaux qui lui permettent de se localiser, en tout cas pas plus à des signaux qui viennent des satellites. Donc il faut qu'il parle avec d'autres objets qui se trouvent autour de lui pour déterminer sa position. Quand on est dans des environnements sans obstacles, en champ libre, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Mais à partir du moment où on a des obstacles, les distances mesurées peuvent devenir complètement incohérentes. Et donc, ma grande peur, c'est d'avoir ces données incohérentes qui arrivent parce que je ne suis pas sur le terrain. Enfin, je dis « je », mais ça peut être quelqu'un d'autre qui utilise une solution que j'aurais préparée. et que la solution dise « je ne sais pas quoi faire avec ces données ». Donc quand je pense à ça, je me dis « la solution, c'est de prototyper », donc c'est-à-dire d'avoir une recherche, évidemment, qui se base sur des modèles, de faire des études théoriques, mais de faire des études sur le terrain avec des conditions les plus variées possibles pour anticiper ce genre de situation, donc les différents types d'obstacles qu'on va pouvoir rencontrer dans la réalité.
Est-ce que vous diriez que limiter l'imprévu, c'est réduire la distance entre la théorie et la pratique?
D'une certaine façon. Parce qu'il y aura toujours des combinaisons qu'on ne pourra pas prévoir. Parce que la vie, c'est ça. On ne peut pas tout prévoir. Tout n'est pas contrôlé. Mais au moins, si on a testé de manière assez étendue, on sait qu'il y a une bonne proportion des cas réels qu'on va pouvoir gérer. Pour moi, la chance, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée. Et dans mon parcours, je dirais que quand on regarde la chance sous cet angle, il y a une partie de cette chance qui peut être amenée par une démarche d'objectifs SMART. Alors, des objectifs SMART, ce sont des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. C'est une démarche que j'utilise dans mon quotidien, à la fois professionnel et personnel. Ça me permet d'avoir un petit peu de contrôle sur l'arrivée de la chance, mais bon, je n'aurai pas l'arrogance de dire que je la contrôle à 100%.
Quand vous faites des conférences devant des étudiants et étudiantes, est-ce que vous essayez d'imaginer comment sera leur réception de ces informations que vous leur donnez?
Alors, j'essaie de rendre les informations les plus digestes possibles en prenant des exemples de la vie quotidienne. Bon, je sais que certains, malheureusement, s'arrête à l'exemple et oublie le concept qui est derrière. Mais j'ai eu le plaisir de voir que certains étudiants comprennent et s'intéressent au domaine.
Un extrait donc d'un podcast réalisé avec l'aide technique de Radium à Castres et en partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs et chercheurs qui aura lieu notamment à Albi le vendredi 30 septembre prochain. On en reparle très bientôt sur nos ondes, mais en attendant, vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur l'édition 2022 sur le site nuitdeschercheurs-france.eu.
On termine cet hebdo d'infos comme lundi du lundi 19 septembre avec quelques brèves pour vous dire que ce week-end, c'est le lancement du festival d'expérience musicale Riverrun, festival organisé par le GMEA. Les premiers rendez-vous mettront la radio à l'honneur avec ce samedi 24 septembre. Du côté de Miars et à 19h, le très beau documentaire sonore Bouilleur de crue qui sera présenté par son auteur Benoît Bory. Et ce dimanche 25 septembre, une carte blanche à l'équipe de la web radio, la radio Octopus. Ça se passe du côté du Prévert à Rabastens avec des siestes sonores et des mix. Enfin, retrouvez toute la prog en passant par le site du GMEA, gmea.net.
Et Radio Octopus, justement, on en reparle puisque depuis quelques semaines, vous l'avez peut-être entendu, on a une émission partagée et coproduite avec Radio Octopus et Radio Air d'Otan. Et demain, mardi 20 septembre, à midi et 18h, on va retrouver un magazine coproduit donc avec cette semaine, c'est Radio Octopus qui s'y colle, un zoom sur le Planétarium Observatoire de Montredon-l'Abbé-Saunier. Ensuite, sur cette semaine, sur Radio Albitzès, ce mercredi, dans l'émission Garde à Rem la Terre, toujours à midi et 18h, on retrouve Youth for Climate Albi qui vous invite ce samedi à 15h place du Vigan pour une marche pour le climat. Il y a beaucoup beaucoup de choses ce week-end.
Les jeunes pour le climat. Hein,
voilà, Youth for Climate.
En français.
Jeudi, c'est Bakil Actu qui revient en Clémentine. Et vendredi à midi et 18h, c'est un atout Tarn en partenariat avec le conseil départemental du Tarn. Et on termine ce comme lundi en musique avec Éric Chenot, puisqu'à l'occasion de l'événement The Opposite of Fatalism, de l'opposé du fatalisme, le Centre d'Art Le Lay invite donc Éric historique ce vendredi 23 septembre à 20h30 à la Cheminée, au 5 rue Sainte-Marie, à Albi. Le prolifique et fascinant guitariste Éric Chenot s'associe à l'artiste et écrivaine Marceline Delbecq pour une performance inédite. L'ouverture des portes, c'est 19h30. Il y a une buvette et une petite restauration sur place et l'entrée est gratuite.
Allez, merci de votre écoute. Merci à Melvin pour la réalisation technique.
Et on se dit à lundi prochain et bonne semaine sur Radio Bilsès.
Ciao, ciao.
So many ways that in your lonely light, let me try life. I mean being with you, being with you. Oh, in this world, in our dream town.